Plaisir Boomerang Culte avec Étienne Dao, c'est parti. Il y a un malentendu sur tout ce qui est pop. À l'origine, sans doute, il y avait cette vocation à séduire un plus grand public, cette façon de s'approprier la société de consommation, ce rêve d'une œuvre d'art qui se reproduit, qui se réinvente à l'infini aussi. Vous avez remarqué qu'on a très vite arrêté d'en faire une abréviation de populaire. Le pop art, c'est pas l'art populaire. On parle de la pop, du pop rock. On écoutait le pop club à la radio naguère. Aujourd'hui, on est accro à Pop & Co. Bref, si on dit pop, c'est peut-être aussi, tout simplement, parce que le mot renvoie autant au populaire qu'au bruit et au verbe sonore. Pop, en anglais, c'est tout ce qui saute et qui surgit, tout ce qui éclate, qui détonne, qui pétille. En fait, cet étrange glissement de son, ça nous dit quelque chose de fondamental sur cette notion de pop. Son principe, c'est de tout faire sauter avec une certaine légèreté, c'est de puiser dans tout ce qui se fait, et c'est de résister aussi, par définition, à la définition. Je pense à une liste, une tentative de définition justement par l'artiste Richard Hamilton, qui dit que la pop, le pop, c'est populaire, provisoire, jetable, bon marché, produit en série, jeune, drôle, sexy, astucieux, spectaculaire, rentable, autant dire tout et son contraire.
France Inter. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang. Mon invité aujourd'hui est un roi de la pop. Il en a même été l'un des emblèmes au début des années 80. L'homme qui marche sort aujourd'hui. C'est un album qui clôture l'immense tournée qui a suivi l'apparition de ses chansons de l'innocence retrouvée il y a 2 ans et qui retrace en 36 pistes 35 ans d'un itinéraire où triomphe créativité, éclectisme, liberté. Bonjour Étienne Dao.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là. C'est quoi la pop pour vous?
Mais il n'y a pas de définition vraiment. C'est tout et son contraire. Et j'ai trouvé très bonne la définition que vous en avez donné tout de suite.
Pour vous, c'est
pour moi, c'est une zone. Ça a des contours flous, mais c'est justement une zone très libre où tous les coups sont permis.
Ça veut dire que dans l'écriture d'une chanson de pop, il n'y a pas de règles, il y a moins de règles que dans les autres genres musicaux pour vous?
Je pense surtout que c'est une zone de liberté où on peut tout utiliser. Et c'est une définition pratique pour pouvoir faire ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'en fait, je trouve que dans la plupart des musiques, il y a des codes très très rigides. C'est une manière d'échapper à tout ça.
Et un format quand même.
Oui, si on veut.
À l'origine,
330.
Dans la France des années 80, quand vous avez commencé à faire de la musique, à quoi ça correspondait précisément cette pop que vous avez assumée, hein, dont vous vous êtes d'emblée revendiqué? À quoi ça s'opposait peut-être?
Mais à l'époque, c'était très cloisonné. Il y avait le rock, il y avait la chanson française très traditionnelle. Dire qu'on faisait de la pop, c'était une façon de sortir de ça. Et moi, je voulais sortir aussi du rock qui m'avait trop impressionné quand j'étais adolescent. Et je voulais pas faire de rock, ni chanter en anglais, ni être dans un groupe.
Pourquoi?
Parce que j'étais trop influencé par ça et que j'aurais essayé de refaire ce qui m'avait trop impressionné. Les albums de Bowie, du Velvet, de Syd Barrett et compagnie. Et j'essayais, très prétentieusement comme ça, d'imaginer que je pouvais peut-être inventer quelque chose en français, en utilisant ma culture française, mes racines françaises, parce que j'aime beaucoup aussi la chanson française, la pop française, le yéyé.
Et aujourd'hui, j'ai l'impression que la notion de pop, elle semble effectivement résister à toute forme de définition, un objet pop. Je le disais, en musique, en littérature, en art, au cinéma, ça se nourrit toutes sortes d'influences, ça recycle, ça remixe. On sait qu'un morceau pop, il va lui-même être recyclé, remixé, il refuse de se figer en fait dans quelque chose de définitif. La pop, j'ai l'impression, c'est libre, c'est volage, c'est infidèle. Vous êtes d'accord avec ça ou pas?
C'est joli.
C'est ma nouvelle théorie.
J'adhère.
Vous allez dire, bon, ça me rassure. À quoi vous êtes resté fidèle, vous, depuis Mythoman, votre premier album?
Je suis resté fidèle surtout à la même envie de parvenir à chaque fois concrétiser un petit miracle qui est une chanson terminée. Voilà, c'est tout. C'est déjà beaucoup.
Et à quoi vous avez été infidèle?
Ça, on en parlera hors antenne.
Ce qui est sûr, Étienne, c'est qu'en 35 ans, vous n'avez eu de cesse d'attiser, sans doute malgré vous, chez nous, des fantasmes d'infidélité tout à fait inavouables, des envies, je sais pas moi, des envies de ça.
Florence, Milan, s'il y a le temps, week-end, week-end.
Puis de ça aussi.
Bebop, pieds nus sous la lune, sans foi ni toi ni personne. Je crois bien que je ferai n'importe quoi pour te voir. 5 minutes encore, à sable d'or près des dunes, je te raconterai n'importe quoi. Ce sera bien.
Ce sera bien.
Je fais un vœu
Et ça aussi là.
Gemini. Même si je ne suis rien, si je suis personne, personne. Gemini.
Comme au premier jour, Étienne.
Oui, tout peut changer aujourd'hui. Et le premier jour du reste de ta vie. Plus confidentiel.
Puis comme par hasard.
Je sens debout les bandes agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. À pleurer les larmes dingues d'accord que je t'aime.
Ouais. Je suis désolé, Étienne, cette année, Boomerang est sous le signe de la caresse. Je me contrôle plus. Vous avez conscience quand même de ce que vous provoquez ou pas, hein?
Pas trop. C'est très difficile de se mettre dans la tête des autres. Mais c'est très agréable, en tout cas.
C'est quoi un tube pour vous?
Un tube, c'est une chanson qui marche très fort. J'ai la chance d'en avoir plein. C'est confortable d'avoir des tubes. Vraiment, je l'ai constaté quand j'ai fait cette dernière tournée qui était basée sur, la plupart du temps sur des chansons qui étaient très connues, enfin, comme des moments partagés de manière très longue comme ça avec le public. C'est très fort.
Et ça a pu être...
Il y a une intro comme ça et tous les gens sont un peu en transe et chantent et dansent et c'est un truc de fou. On a terminé à Rock en Seine la tournée, c'était vraiment c'était très beau à voir. J'étais un peu spectateur de ce qui était en train de se passer.
Ça a pu être votre but, à vous, de faire des tubes dans la vie, dans votre carrière, à un moment donné?
J'ai une culture tube. Quand j'étais petit, j'écoutais beaucoup, beaucoup la radio, beaucoup les chansons, les Beach Boys, tout ça, enfin, tous les yé, tout ça. Donc, j'ai une notion de ce qu'est une chanson qui fait 3-10 et qui vous emporte.
Par une mélodie?
Ouais. Mais moi, vraiment, j'aime les tubes.
Et en 35 ans, c'est normal, Étienne Dao, il y a des chansons, il y a des albums, pour le coup, qui ont moins bien marché. Et je pense à un disque comme Eden, par exemple, il y a 19 ans. Cet album si important pour vous, qui était l'album d'une renaissance, mais qui n'a pas rencontré, justement, son public au moment de sa sortie. On s'en remet de ça? Ou ça reste une blessure,
hein? Ah non, c'est pas du tout une blessure. À partir du moment où on est content de ce qu'on a fait, qu'on l'assume intégralement, j'étais tellement fier de ce disque, donc j'étais pas... Non, au contraire, j'étais content qu'il existe. C'est un disque qui annonçait la suite. Donc c'était un passage. Et les passages sont souvent un peu brutaux.
Un disque un peu en avance aussi, peut-être, non?
Je sais pas. Non, je sais pas. Je pense pas qu'il était en avance. Je suis comme un buvard. Je suis très, très sensible à l'air du temps. Et cet album est un album de l'air du temps et de mélanger tout ce que j'entendais dans les clubs toute la nuit et essayer de faire quand même des chansons. Qui soient des chansons construites avec un orchestre aussi, de mélanger l'orchestre avec toutes les bécanes et tous les petits jouets qu'il y a en studio.
Vous allez le ressusciter un jour, cet album?
J'ai envie de le jouer l'année prochaine en intégralité. Ouais.
Étienne Dao, plutôt Abdelmalik ou Mylène Farmer?
Plutôt Abdelmalik, et je trouve l'association avec Laurent Garnier vraiment très très intéressante, vraiment bien.
Ce qui est intéressant en même temps avec Mylène Farmer, c'est que vous avez commencé dans les mêmes années, vous êtes de ceux qui ont survécu, somme toute. Vous connaissez, vous êtes rencontrés?
On se connaît très très peu, on a commencé en même temps, on s'est un peu croisés.
Il faut dire qu'elle est très secrète comme vous, Mylène.
Moi je suis pas du tout secret.
C'est vrai?
Non.
Je me disais, c'est peut-être ça le secret en fait. Sérieusement, c'est quoi le secret, Étienne Dao, pour vous, pour rester? C'est de se réinventer sans cesse?
Ah mais il n'y a pas de secret, ça dépend pas de moi du tout. Il y a plein de gens qui font des albums fantastiques et qui ne rencontrent pas un public. Moi, je suis une voix pour les autres, j'imagine. Ce sont les autres qui m'ont choisi.
Et vous voulez expliquer?
C'est la raison pour laquelle je suis là. C'est la seule explication.
Il y a eu quand même ce phénomène qu'on a appelé la Daomania, qui a émergé dans les années 80, qui a culminé au début des années 90, avec Paris ailleurs. Ça a été la folie, hein, à ce moment-là. Vous avez pensé à un moment tout arrêter?
Oui, j'ai arrêté d'ailleurs.
Pour revenir.
Oui, pour revenir, mais c'est-à-dire que c'était un succès qui était un petit peu trop envahissant pour moi. J'ai fait de la musique parce que je suis un fan de musique, que j'avais envie de faire des chansons, de faire des albums, de monter sur scène, mais je rêvais pas du tout de célébrité. J'ai découvert la célébrité, c'est revers. Et c'est pas ce que je recherche du tout.
Ça voulait dire que ça a parasité aussi votre musique?
Pas la musique, mais ça a parasité ma vie, et si ça parasite ma vie, ça peut parasiter la musique qui s'en inspire.
La Daomania, Elle est toujours là, notamment à travers une nouvelle scène française qui ne jure que par vous. Vous êtes un demi-dieu. Je le sais parce que certains sont venus ici à ce micro et m'ont parlé de vous. Là, je pensais à Lescope, mais je pense en l'occurrence à Flavien Berger, à Adrien Gallo. C'est qui le nouveau Dao ?
Il n'y a pas de nouveau Dao. Ils ont tous leur spécificité, leur personnalité. Mais tout ce dont un artiste peut rêver, c'est ça. C'est-à-dire que sa musique soit réinterprétée, réutilisée, retransformée. C'est la seule chose dont un artiste peut rêver, je pense.
Un artiste pop, en l'occurrence, puisque oui. C'est ça, la pop.
Moi, je me suis nourri de mes aînés, et c'était la même chose. J'avais un peu la même attitude par rapport à ça.
Qu'est-ce que vous avez remixé, par exemple ?
J'avais quatre... Non, c'était trois couples, en fait. Il y avait Elie Medeiros et Jacques Noe. Stinky Toys, il y avait Hardy Dutronc, Gainsbourg Birkin. C'était vraiment... je voulais être ça. Je me disais, quand je serai grand, je veux être ça.
Et quand vous regardez aujourd'hui la scène musicale, vous avez bien des enfants spirituels, votre fils ou votre fille spirituelle.
J'ai beaucoup d'affinités avec cette scène que je trouve vraiment... Justement, on parlait de la pop tout à l'heure. Pour moi, aujourd'hui, la pop française, c'est vraiment la dernière poche de résistance. C'est très...
De résistance à quoi ?
De résistance, parce que vraiment, c'est une musique qui est très peu relayée. C'est presque devenu de l'underground, en fait, la pop française. Et c'est plutôt bien, parce que c'est là qu'on trouve vraiment tout ce qui se renouvelle.
L'homme qui marche. L'album sort aujourd'hui, Étienne Dao, et retrace votre parcours musical, 35 ans de carrière. Dans ce disque, il y a notamment un inédit qu'on aime beaucoup ici, Paris sans interdit. Vous êtes sur France Inter avec Dao, vous écoutez Boomerang.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
Ouais, c'est drôle quand même d'avoir en face de soi un visage qu'on a vu reproduit à l'infini sur des pochettes, sur des posters, sur des affiches depuis qu'on est tout petit. C'est ce visage d'ange, vous savez, à la fois sombre et sexy, visage allongé, rasé de près, éternel ado, ce visage animé par un regard aussi d'une rare intensité. Alors j'ai eu le temps de l'observer, il est excessivement propre sur lui et chic, hein. Façon college boy, dissident, un peu rebelle, chemise bleu ciel, cravate rouge sous un pull vert foncé à col V, blouson en cuir, des gaines de chef de gang, étrangement, Étienne Dao, mon invité dans Boomerang. Quoi ? Ben c'est vrai, pour la sortie aujourd'hui de L'Homme qui marche, un album qui revient sur 35 ans de carrière, 35 ans de musique, de rencontres, de partage, 35 ans d'écriture aussi. Et je me disais, l'écriture, c'est quelque chose qui ne se partage pas forcément. Pour vous, ça requiert chez vous, j'ai l'impression, un certain isolement, une certaine concentration, de l'introspection. C'est une expérience très intime, en fait, non ?
C'est très solitaire, surtout. Et ça demande une simplification perpétuel, hein. J'ai tendance à écrire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Sur chaque chanson, je peux écrire un cahier entier. Et l'idée, c'est vraiment d'arriver à simplifier, de conserver la sensation de base, la plus authentique possible, l'idée la plus simple. Et ça demande du temps. C'est très dur de faire simple, en fait.
Vous vous enfermez pour écrire ?
J'ai eu un système sur le dernier album qui était de me lever très tôt. Et de ne pas être, avant la pollution des mails et du téléphone et tout ça, et du monde extérieur, d'écrire tout de suite. Et je trouve que c'était très bien.
Mais ça a toujours été une expérience très secrète, ou ça ne l'était pas dans votre jeunesse, Étienne Dao ?
Il y a des albums que j'ai écrits trois secondes avant de faire les voix, parce que voilà, c'était comme ça. Pop Satori, par exemple, toutes les voix ont été faites très vite, et les textes ont été faits très vite parce que voilà, il fallait les faire, il y avait une urgence.
C'est de plus en plus difficile.
C'est de plus en plus difficile si on est de plus en plus exigeant et qu'on a des ambitions d'être meilleur, de s'améliorer. Oui, alors c'est dur.
La première chanson, le premier texte que vous ayez écrit, c'est quoi ? Vous en souvenez ?
Oui, ça s'appelait Moderne.
C'était en quelle année ?
Je pense que je devais avoir 15 ou 16 ans, ma première chanson.
Et elle est venue de quoi, cette chanson ?
C'était une chanson qui parlait d'attendre dans des cafés. Tout ça. C'est vrai que le café, c'était un endroit très important pour ma génération, vraiment, où plein de gens se retrouvaient avec des disciplines différentes, des gens qui faisaient de l'art contemporain, de la musique, de la peinture, de la photo, tout ça. Tout le monde se parlait. Il y avait un espèce d'échange comme ça.
Et il a fallu écrire. Pourquoi vous écrivez ? Vous vous posez la question, parfois.
Pourquoi j'écris ?
Ouais.
Mais je n'ai pas le choix. Je suis fabriqué comme ça.
Pour se raconter des histoires aussi, peut-être, non ?
Me raconter des histoires ? Peut-être pour communiquer avec les autres.
Quand nous eûmes marché des heures en silence, la nuit tomba et les étoiles commencèrent de s'éclairer.
Les étoiles sont belles à cause d'une fleur que l'on ne voit pas.
Bien sûr.
Le désert est beau. Ce qui embellit le désert, c'est qu'il cache un puits. Quelque part.
Le petit prince s'endormait. Je le pris dans mes bras. J'étais ému. Il me semblait porter un trésor fragile. Il me semblait même qu'il n'y eût rien de plus fragile sur la terre. Je regardais à la lumière de la lune, ce front pâle, ses yeux clos, ses mèches de cheveux qui tremblaient au vent. Et je me disais, ce que je vois là n'est qu'une écorce. Le plus important est invisible.
Le plus important est invisible.
L'essentiel est invisible pour les yeux.
Petit prince, Étienne Dao, lu par Gérard Philippe et Georges Poujouli dans un enregistrement de 1954. Il paraît que c'est le premier disque qu'on vous ait offert.
Oui, c'est ma mère me l'a offert pour Noël en 65.
Qu'est-ce qui reste aujourd'hui ?
Je m'en souviens parce que c'est marqué au dos du disque.
Vous l'avez gardé ?
Noël 65, bien sûr.
Vous l'écoutez de temps en temps ?
Je l'écoute de temps en temps.
Qu'est-ce qui reste de l'enfance aujourd'hui, Étienne Dao, de votre enfance ?
Il reste tout, mais il reste tout aussi de la suite. Je transporte tous les moments de mon existence là, aujourd'hui.
Ça vous parle ?
Mais en même temps... c'est un passé retransformé. Aujourd'hui, ouais. J'ai pas de nostalgie. Pour moi, le passé est mort par définition. Donc, je le recherche pas.
Et ça vous parle, cette phrase, le plus important est invisible pour les yeux ?
L'essentiel est invisible pour les yeux ?
L'essentiel est invisible
bien
pour
sûr,
les yeux.
Bien sûr.
Ça veut dire quoi ?
Il faut regarder au-delà des apparences. Il faut deviner.
C'est le travail
avec un peu d'intuition. C'est ça aussi la magie des rencontres avec les autres. C'est d'avoir cette intuition et de percevoir ce que les autres ne voient pas à l'œil nu, peut-être.
Et c'est ce que vous faites, vous aussi, par votre travail, par vos chansons ?
Je sais pas si c'est ce que j'essaie de faire, mais en tout cas, dans ma relation aux autres, oui, c'est important d'essayer de percer le mystère de la personne qui est en face de moi.
Il y a une chanson qui m'intrigue chez vous, Étienne Dao, depuis toujours, dans laquelle on retrouve le Petit Prince, justement. Dans cette chanson, le Petit Prince, c'est vous, et c'est votre père qui vous appelle comme ça. Cette chanson, c'est Boulevard des Capucines, sur l'album L'Invitation. Tu sais quelle connerie, ma jeunesse, mon silence, quelle erreur, quelle perte de temps, si je n'ai pas su te dire, attends, que je pensais à toi, tout le temps, mon guerrier, mon roi, mon petit prince. Elle est centrale, cette chanson, je crois.
Elle est libératrice. Oui.
Qu'est-ce qui s'est passé avec cette chanson ?
Quand j'ai mis vraiment le point final à cette chanson, il s'est passé un truc. J'étais à Ibiza, en fait. J'étais enfermé pour écrire cette chanson. Il fallait que je la termine. J'avais une espèce d'urgence de la finir. Et je suis sorti sur la terrasse de la maison que je louais. Et tout d'un coup, il y a eu une pluie diluvienne avec un immense soleil. Quelque chose de féerique, de très très beau, très lumineux. Et je me suis senti beaucoup plus léger. Voilà, ça a mis un terme à probablement une forme d'écriture un peu introspective.
Ça veut dire que vous vous êtes mis à écrire pour les autres, plutôt pour les autres ?
J'ai eu l'impression, avec le dernier album, d'écrire de manière plus ouverte, enfin, d'être un peu plus concerné par les autres et par l'état du monde. Alors qu'avant, j'étais un petit peu plus concerné par une personne ou deux personnes, enfin, par mon petit monde. Hélas, on reste un jeune homme, un adolescent, un peu trop longtemps.
L'album qui sort aujourd'hui, vous ne l'avez pas appelé Boulevard des Capucines, vous l'avez appelé L'Homme qui marche. C'est une chanson du père aussi, L'Homme qui marche.
Ça peut, c'est beaucoup de choses. Je ne suis pas pour expliquer les chansons. Elles doivent avoir leur mystère. Moi, je n'aime pas qu'on m'explique les choses, parce que ça me déconnecte de la chanson. Après, je ne peux plus me projeter dans ce qu'elle veut dire. Elle n'est plus pour moi. Mais il peut y avoir de ça. C'est le bon soi et le mauvais soi.
Ça peut vouloir dire
quelque
chose.
Vous voyez la scène de Twin Peaks à la fin,
ouais.
Dale Cooper, le bon Dale Cooper qui poursuit le mauvais, ou l'inverse, dans la lodge, la pièce rouge. C'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Ça peut être un peu ça, L'Homme qui marche. Mais le titre, enfin bon, au-delà du fait que c'est une des chansons, peut-être la chanson que je préfère de moi, il y a une notion de mouvement et de rectitude. Et appeler un best-of L'Homme qui marche, pour moi, ça annonce la suite. Ça annonce que c'est un mouvement, que c'est pas un arrêt sur image, que c'est ranger un peu ses affaires provisoirement.
L'Homme qui marche, alors du coup, ce serait vous ?
Oui, oui, oui.
Parce que ça marche dans tous les sens du terme.
Oui, tout à fait.
Merci beaucoup d'être venu faire un tour dans Boomerang. Je rappelle que votre disque sort aujourd'hui, dans 2 semaines sur Arte. Ne ratez pas surtout le documentaire d'Antoine Carlier qui vous est consacré, un itinéraire pop et moderne. Et puis il y a aussi cette très belle BD, L'Homme qui chante, signée David Chauvel et Alfred. Vendredi, c'est le jour des merci, Alain. Pardon, pas Alain, Étienne. Merci à toute la fine équipe de Boomerang.